Entretien avec Marc de Gouvenin, éditeur de Millennium. Paris, juillet 2008.
Marc de Gouvenin, bonjour. Vous êtes l'éditeur et le traducteur avec Lena Grumbach de la série Millennium. Pouvez-vous nous dire quand vous avez entendu parler pour la première fois de Millennium ?
C'est une très longue histoire qu'il faut replacer en fait dans un contexte. Cela fait 30 ans maintenant que je m'occupe de littérature scandinave, que j'ai traduit et avec Lena Grumbach, qui fut mon épouse suédoise, nous avons traduit depuis 1969-70 quelque chose comme 120 romans, pour la plupart d'auteurs contemporains suédois, quelques norvégiens et autres scandinaves. Et puis, je suis responsable aux éditions Actes Sud du domaine scandinave. J'avais travaillé avec d'autres éditeurs avant. Cela veut dire que, en 30 ans, je disposais de ce que j'appelle des antennes, enfin des relations, des auteurs, des gens du monde de l'édition, des collègues de travail dans le monde éditorial suédois. Très logiquement, bon, j'avais très régulièrement des informations. Et puis là, pour une fois, je me trouvais à Stockholm en décembre 2004, hors travail éditorial, pour d'autres raisons, enfin des discussions internes à la Suède auxquelles on m'avait convié comme observateur étranger. Et un soir, en marchant dans les rues de Stockholm, alors le décor est joli, la neige, la nuit, les bords de rivières glacées, et cet ami que je connais depuis 1969 me dit, tu sais, là... chez Norstedts, maison d'édition célèbre en Suède, on est trois ou quatre. Là, on a lu un manuscrit qui nous est arrivé il y a pas très longtemps. On est complètement enthousiaste. C'est un truc que tu devrais lire. Et ça fait tilt. Alors, elle m'a parlé d'un thriller. J'ai dit, mais tu sais, je ne publie et je traduis essentiellement de la littérature, on va dire, au sens le plus noble du terme. Elle m'a dit, mais ça, c'est autre chose. C'est une sorte de comédie humaine. Il faut que tu lises ça. Donc, j'ai dit, mais écoute, envoie-moi ça. C'était à l'époque absolument pas publié en Suède. Ça n'était même pas sous forme d'épreuve. J'ai reçu un fichier Word imprimé. Ça me faisait une pile monstrueuse sur ma table à manger à la maison. Et j'ai entamé la lecture, donc deux jours après être rentré en France, et puis voilà, départ. Dans une rue de Stockholm, la nuit sous la neige.
Et qu'est-ce qui vous a séduit alors dans cette histoire ?
Bah, ce qui m'a séduit, c'est tout simplement de commencer la lecture comme je l'aurais fait pour un tas d'autres manuscrits ou livres déjà publiés. C'est d'entamer la lecture, mais là, au bout de 10 pages, ça y est, j'étais pris. Au bout de 20 pages, j'étais bouffé. Au bout de 50 pages, j'étais scotché. Je disais à ma femme, écoute, mange, t'occupe pas de moi. Va te coucher, t'occupe pas de moi. Et j'ai lu, j'ai dévoré 100, 200, 300, 500, 600, 1000 pages. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je lisais comme je pouvais lire à 20 ans. C'est-à-dire, non pas avec une sorte de grille, on va dire, restrictive ou attentive d'éditeur, mais tout simplement en lecteur. J'étais bouffé par l'histoire, et si ça me faisait ça à moi, il n'y avait pas de raison que ça ne le fasse pas sur d'autres lecteurs. Là, ça veut dire, j'ai envie de publier ce livre, j'ai envie d'en parler au directeur éditorial d'Actes Sud, Bertrand Py, et puis voilà, et il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on le publie.
Donc en fait, vous avez quelque part proposé ce projet avant même qu'il n'y ait eu publication en Suède.
Oui, alors proposer, bon, je suis responsable du domaine scandinave chez Actes Sud depuis 25 ans, donc en gros mes choix sont validés par la direction éditoriale, ça c'est pas un problème, et puis c'est une équipe amicale, le problème n'était pas là, c'est simplement d'abord de faire passer mon enthousiasme à Bertrand Py, qui a adhéré tout de suite. Cela voulait dire donc tout de suite rentrer en contact avec Norstedts, l'éditeur, le futur éditeur, et dire voilà, ben on est prêt nous aussi à le publier en France, puisque vous êtes enthousiaste et vous allez le publier. Donc on a acheté les droits avant même qu'il soit paru en Suède, même plusieurs mois avant qu'il soit paru en Suède, et entamé la traduction plusieurs mois avant la parution en Suède.
Et chronologiquement, il a quand même été publié en Suède en premier, je suppose.
Il a été publié en Suède. Alors, les dates exactes, je ne les ai pas. Disons aussi, pour être tout à fait exact, qu'à peu près au même moment, un lecteur allemand avait eu la même opinion que la mienne. Au Danemark, c'était la même chose. Les Pays-Bas sont venus, je crois, juste un petit peu après. La Norvège, à peu près, un peu après la France. Le premier tome est paru en Suède plusieurs mois avant la France. Ils avaient déjà le texte, ils pouvaient le mettre en épreuve et travailler dessus pendant que nous, avec Lena Grumbach, on travaillait sur la traduction. Mais on a rattrapé le retard, puisque le dernier tome est paru, le troisième tome de Millennium est paru en Suède en août 2007 et en France en septembre de 2007. Sur le troisième tome, on avait rattrapé le retard. Bon, ça veut dire qu'on a bien travaillé sur les traductions et bien. Mais les pays que j'ai mentionnés tout à l'heure ont fait de même. L'Allemagne l'a aussi publié à peu près dans les mêmes délais. La Norvège a publié le troisième tome après la France, ce qui est pas mal pour un livre scandinave. Mais ça, disons aussi que ça fait partie de l'histoire ancienne, puisqu'on l'a déjà fait pour des ouvrages de littérature blanche ou noble, comme on peut l'appeler, en travaillant très loin en amont avec des auteurs contemporains déjà sur leurs manuscrits. Des gens comme Per-Olof Enquist, Torne Lindgren, on collait totalement à l'actualité.
Et vous savez dans combien de pays était publié Millennium au total ?
Actuellement, une trentaine de pays a acheté les droits de Millennium. Ce qui est assez amusant, c'est que le processus a été le même depuis le début et à tous les niveaux. En Suède, Stieg Larsson avait remis les deux premiers volumes de la trilogie à un éditeur qu'on va appeler, pour simplifier, Alternatif, une sorte de coopérative d'éditeurs, et personne ne l'avait lu. Il est retourné 2 mois après en disant, bon, vous le lisez, mon manuscrit ou pas, il l'avait toujours pas lu, il leur a accordé 1 mois, puis après il a dit, bon, ben, je vais le présenter à quelqu'un que je connais qui travaille chez Norstedt. Donc il y a un éditeur qui a raté le coche. Ça a été la même chose pour d'autres maisons d'édition dans les premiers pays qui ont publié Millennium. Et ça a été la même chose presque au niveau de la diffusion du livre en France. Le Millennium n'a pas bien fonctionné pendant quasiment 1 an. Et puis après, ça a démarré. L'Allemagne, par exemple, qui a publié Millennium très vite en poche, avant qu'il devienne une sorte de best-seller, les éditeurs, bon, soyons concrets, doivent un peu s'en mordre les doigts. Ils auraient très bien pu laisser courir l'édition originale un bon moment avant de paraître en poche. Donc actuellement, alors pour finir, à l'automne de 2007, il n'y avait encore que même pas une dizaine de pays qui avaient acheté les droits. Et puis brusquement, 12, 15, 16, 18, 20, 25 pays ont acheté les droits, dont 2 qui sont considérés dans le monde de l'édition mondiale comme importants, c'est l'Angleterre puis les USA. C'est assez rare que des livres de langues européennes, on va dire français, suédois, polonais, soient traduits en Angleterre. Il y a très peu de livres qui accèdent au public anglais, et là, Millennium, il a fallu du temps, mais il y est arrivé.
Et là, il est déjà publié aux États-Unis ou il va sortir ?
Sauf erreur, il n'est pas encore paru aux États-Unis, donc il doit paraître, là on est en juillet 2008, je crois qu'il paraît en août ou septembre. Par contre, il est déjà paru en Angleterre, le premier tome. Le premier et le deuxième sont parus ou sur le point de paraître en Italie et Espagne, et puis il y a tout un tas d'autres pays qui arrivent derrière.
Et vous nous avez dit justement que Millennium a mis un peu de temps à s'installer. D'après vous, qu'est-ce qui a fait le succès de cet ouvrage ? Parce que le roman se déroule en Suède, le personnage de Lisbeth est apparemment inspiré d'un personnage de littérature suédoise enfantine, Fifi Brin d'Acier. Comment expliquez-vous que les Français s'identifient si bien au personnage et à quoi tient l'alchimie selon vous ?
Je pense qu'il faut, si on est objectif, justement, le livre n'a pas si bien marché au début. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément eu une telle identification, reconnaissance des lecteurs. 1 an après la parution de Millennium, du premier tome, donc Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes, alors que le deuxième tome était déjà paru aussi, On en était encore qu'à 25 000 exemplaires, ce qui est un bonne vente pour un thriller, mais qui n'a rien d'extraordinaire. Donc après, ce qui se passe après, c'est l'effet boule de neige. Hein. Plus le livre est vendu, plus il est présent en librairie, plus il est présent, plus on en vend, et puis on peut, etc. La presse s'en occupe. Donc là, il y a un effet boule de neige. Par contre, moi j'aime bien célébrer et remercier les premiers lecteurs, ceux qui vraiment ont trouvé quelque chose dans ce livre et sans plus. Alors, est-ce que c'est parce que ça se passe en Suède? J'en suis pas si convaincu, parce que replaçons Millennium brièvement ce que c'est. C'est un thriller avec plusieurs intrigues sur l'économie, des scandales financiers, scandales politiques, côté sordide du trafic de femmes des pays de l'Est vers la Scandinavie, dérive de l'extrême droite, etc. Enfin, il y a plein de pistes sur les trois volumes, puisque ça fait plus de 2000 pages, ça fait pas mal de pistes qui sont parcourues par Stieg Larsson dans ces trois tomes. Mais le fond, ça, c'est quand même ce que j'appelle vraiment, j'ose le mot, une comédie humaine. C'est la société très contemporaine du début du 21e siècle, avec un nombre foisonnant de personnages. Bon, oui, il y a des personnages principaux, Mikael Blomkvist, le journaliste enquêteur, Lisbeth Salander, la jeune punk révoltée, brisée par la société, dont on peut dire qu'elle est un peu Fifi Brin d'Acier, parce qu'elle se bagarre toujours, mais bon, ça je trouve qu'on va un peu loin, mais je peux en reparler après. Mais ce que le lecteur a entre les mains, c'est un portrait d'une société dans lequel tout ce qui est journalistique, politique, économique, sociétal est vrai. C'est nous maintenant. Dans deux siècles, on pourra prendre Millennium, des sociologues, voire des ethnologues pourront le prendre, et voilà ce qu'était la société. Les choses sont justes, et quand je dis les choses sont justes, c'est, je pense, une des forces de Millennium. Stieg Larsson était journaliste, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas dire n'importe quoi, de s'intéresser aux sujets divers et variés qu'il touche. Donc quand il parle d'informatique, il s'est renseigné, quand il parle de politique, il s'est renseigné, quand il parle des bikers ayant viré extrême droite ou espèce de milice, il s'est renseigné. Et je pense que le lecteur, même s'il n'est pas au courant de toutes ces matières, on va dire, perçoit dans celles qui lui sont connues, soit le journalisme, le monde de l'édition, le monde de la police, la société, les jeunes, l'informatique, il perçoit que c'est vrai. Donc il adhère à tout. Par suite, et logiquement, il est devant quelque chose en lequel il croit. Ça, c'est une des forces de Millennium. L'attrait des personnages, oui, on a deux personnages principaux, mais ça aussi, oui, il y a deux personnages principaux qui sont même presque caricaturaux, hein. Il y a le bon journaliste, brave gars, honnête, idée libérale, donc libéral de gauche, hein, qui est un gars qui plaît. Il y a Lisbeth Salander, la rebelle, tout ça. Bon, oui, on adhère à ces personnages, mais on adhère à ces personnages parce que tout autour d'eux, il y en a d'autres qui sont chacun à leur niveau vrais. Erika Berger, elle est directrice d'une publication, elle a ses problèmes de carrière, d'argent, de couple, tout ça. On se retrouve à 36 000 niveaux, le lecteur peut se retrouver ou côtoyer un personnage de ceux qu'il connaît. Une autre grande force de Millennium, moi qui a mis un peu de temps à m'apparaître, c'est, on va dire, pour résumer comme ça très très brièvement, un grand coup de sabre, c'est un récit optimiste pour ce qui concerne la société. Non pas que ce soit béat, boy scout et idyllique, il y a plein d'abjections dans ce que raconte Stieg Larsson. Bon, c'est ces femmes des pays de l'Est qu'on va même bousiller, balancer dans les lacs, Lisbeth Salander qui se fait mais tabasser, violer, enfin c'est horrible la société dont il décrit certains aspects par moment. Mais fondamentalement, Stieg Larsson nous dit qu'il y a trois institutions qui sont les bases de la démocratie, qui sont un bon travail journalistique, un bon travail d'une police en lequel on peut croire et un bon travail de la justice. Il nous dit un peu l'opposé de ce que pas mal de gens se disent ces dernières années, c'est tout est pourri, donc on n'a rien à foutre, tout est pourri, ils sont tous des salauds. Non, les flics ne sont pas tous des ripoux. Il y a aussi une institution policière qui fonctionne, qui travaille, il y a aussi une institution judiciaire qui peut avoir des dérives mais qui à la base fonctionne, et les journalistes de même. Il nous dit en gros, faites gaffe, ces trois institutions sont les garants de la démocratie, sont ceux qui nous protègent de tous les totalitarismes. Il y a pas mal de polars qui, un peu de manière systématique, qu'ils soient anglo-saxons ou français ou autres, nous présentent presque à souhait une société où tout est pourri, tout est glauque, ça n'est que dérive, ça n'est que sordide, etc. Larson, il nous dit non, vous vivez bien dans une société où finalement vous arrivez à vivre, oui, tout n'est pas simple, etc., mais ne dites pas que tout est pourri, c'est trop facile. Et ça, mine de rien, je crois que ça a fonctionné. Alors c'est peut-être un niveau moins perceptible de la trilogie Millennium, mais je suis sûr qu'il est là. Dans les ingrédients du succès, je pense que c'est là.
Vous nous disiez justement que vous alliez nous reparler un peu plus du personnage de Lisbeth Salander.
Lisbeth Salander, oui, on a beaucoup lu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'analyses très superficielles qui sont parues sur Millennium, en tout cas qui reprennent les grands thèmes comme ça. Oui, Lisbeth Salander fait fibre en acier, c'est un peu facile. Stieg Larsson l'a dit à des amis, ça a été écrit, donc on peut le croire. Il se plaisait, mais comme tout Suédois qui a vécu avec les aventures, quand il était gamin, avec les aventures de Fifi Brin d'Acier, qui en suédois s'appelle Pippi Langstrump, c'est-à-dire Pippi les grandes chaussettes. Cette petite fille qui est très forte, qui peut soulever un cheval, qui gagne toujours. Il avait envie, d'en faire une sorte de Pippi Langstrump un peu plus âgée, donc elle est punk, un peu rebelle, etc. Elle se bagarre beaucoup, elle sort des bagarres victorieuses. Stieg Larsson l'a écrit aussi, il avait envie dans ses personnages d'avoir un personnage de femme qui a un rôle d'homme. C'est un peu James Bond, quoi. Celui qui se bagarre beaucoup mais qui gagne toujours. Là, c'est le personnage féminin, Lisbeth Salander. Et Stieg Larsson l'a écrit aussi. Au personnage principal masculin, Michael Blomqvist, il donne le rôle de bimbo. Le mot est de Stieg Larsson, c'est-à-dire celui qui est bien gentil, brave nounours, qui a des aventures avec les femmes, qui sort volontiers dans les restaurants, etc. Donc il a interverti un peu les rôles. Ça, c'est, on va dire que ça peut être une technique d'auteur, et en tout cas, il n'est pas le seul à l'avoir fait. Plus intéressant, je pense, c'est que beaucoup de gens ont dit Stieg Larsson, c'est quelqu'un de très féministe. Le premier tome en particulier, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, est ponctué de statistiques sur la violence faite aux femmes, donc un peu un appel à lutter contre, etc. Moi, je suis un peu plus étonné de voir que son personnage féminin, dont on dit qu'il est si sympathique, il l'a fait tabasser pendant son enfance, avec un père qui est un véritable salopard, qui tue sa mère quasiment, qui la rend dingue puis la fait mourir. Cette fille, elle est confiée à la DAS, elle est violée par un tuteur, elle est plus que violée, même il y a des détails un peu sordides, elle est pourchassée par la police, on lui attribue des meutes, elle n'a rien fait, elle est victime permanente. Et même on peut dire qu'à la fin du troisième tome, oui, elle est vaguement réhabilitée, mais on lui a gâché sa vie. Est-ce vraiment très féministe de faire subir un tel sort à une femme? Faut-il qu'une femme s'en sorte bien parce qu'elle a subi plein de choses? Moi, ça a été quand j'ai lu la première fois où j'ai lu toutes ces pages dont je parlais tout à l'heure de Millennium, m'est venu immédiatement en tête James Hadley Chase avec Miss Blandish, hein, la chair de l'orchidée, pas d'orchidée pour Miss Blandish, où l'auteur, mais presque curieusement, on va dire de manière un peu tordue, fait quand même subir pas mal de choses à une femme. C'est la jeune Miss Blandish, elle est kidnappée, elle est confiée à une espèce de femme à moitié dingue qui la livre à son fils débile, elle est violée, elle aussi, elle est traquée ensuite, elle s'enfuit, elle est enfermée en asile. Bon, oui. On a un auteur qui fait subir un sort étonnant à une femme, et bon, elle fait subir dans des pages d'un livre, mais c'est quand même particulier. Et curieusement, Stieg Larsson, moi, ça m'a fait un peu penser à ça, en me disant, bon, oui, la fin est optimiste, mais...
Justement, vous nous parlez de Stieg Larsson. On sait qu'en fait, que l'auteur est décédé peu de temps après avoir remis les manuscrits à son éditeur. Vous nous dites qu'il parlait justement de sa personnage. Vous avez retrouvé des écrits.
Oui, il est mort peu de temps après. Il y a quand même eu plusieurs mois. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du fait qu'il avait confié ses manuscrits à Pirate Forlaget, un éditeur qui n'en a pas pris soin. Puis là, il connaissait des gens qui l'ont. C'est normal, journaliste, édition, etc. Bon, il avait bien quelqu'un qui lui a dit, tiens, je vais passer ton manuscrit chez Norstedts. Il a remis deux manuscrits et il a eu le temps, plusieurs mois, de travailler dessus avec une éditrice en interne, comme on appelle ça techniquement. Eva Guédine, donc ils ont travaillé un peu, peut-être soit modifié certaines phrases, retapé quelques trucs comme ça. Et donc ça, c'était dans le printemps 2004, hiver-printemps 2004. Et puis il a remis, les dates exactes, je les ai pas forcément en tête, il a remis courant de l'été 2004 le troisième volume. Et il est décédé en début novembre 2004, sauf erreur de ma part. Sachant que Norstedts allait publier sa trilogie, il lui avait fait un contrat, que déjà on parlait de présenter son livre à la foire du livre de Francfort, etc. Donc il est décédé, sachant que les trois livres allaient paraître et qu'une maison d'édition misait beaucoup dessus, était ravie d'avoir un auteur une cinquantaine d'années, un profil... idéal d'auteur, mais il y a un journaliste qui va pouvoir apparaître dans des interviews, dans des rencontres. C'était un bon profil, ça, il savait tout ça.
Donc quand vous dites que Stieg Larsson parlait de ces personnages ainsi, parce que c'est des échanges qui restent en fait entre son éditeur et lui-même.
D'abord, oui, il y a eu des interviews de gens avec qui il travaillait dans la revue Expo dont il était rédacteur en chef, des gens qui ont dit, Stieg nous avait dit ça l'amusait de prolonger le personnage de Fifi Brindacier par exemple, ou de Pippi Langstrump. Il a écrit, il y a tout un échange de mails que Actes Sud avait publié. Avec un coffret l'année dernière, échange de mails entre lui-même, Stieg Larsson, et son éditrice, Eva Guédine, où il parle un peu, tu as raison de me dire de faire ci et ça, j'aimerais bien que les couvertures ceci, cela, oui, tiens, maintenant qu'on parle de mes personnages, parlons-en, Michael Blomqvist, Bimbo, etc., tout ça, il l'a écrit, donc c'est pas du tout de l'imaginaire, c'est des choses dont il a parlé et qu'il a écrites.